Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. C'est un épisode aujourd'hui très 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 spécial puisqu'il s'agit du premier épisode de la nouvelle version de Daily Movies. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis un certain temps pour la simple et bonne raison qu'en fait je n'avais plus le temps de tenir la cadence qui avait. On était sur à peu près un épisode par semaine, ce qui était top, hein. Voilà, en soi, je voyais des films en projection presse, ce qui fait que je pouvais faire un épisode sur... Voilà, chaque semaine, je parlais d'une sortie, ce qui était absolument génial, mais ce qui est génial dans un monde où j'avais le temps, ce qui est vite devenu compliqué. Voilà, hein. Même sur la fin d'année 2023, ça devenait assez compliqué de garder ce rythme, hein. C'est pour ça qu'il y a eu moins de régularité. Et en fait, les seuls moments où j'arrivais à tenir une régularité, c'était pendant les festivals, mais parce qu'en fait j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'étais vraiment, c'est un festival, c'est sur plusieurs jours, c'est assez intense, et donc faut tenir un rythme sur plusieurs jours. Donc là ça va. En revanche, pour tout ce qui est le rythme des films entre guillemets normaux, voilà, et des projections presse, etc. Faut savoir que les projections presse c'est très souvent en semaine et en journée, donc à des moments où j'avais cours, donc c'était compliqué de libérer du temps, tout ça, tout ça. Donc oui, effectivement, je n'avais plus le temps, voilà, de voir les films et de vous en faire des épisodes. Tout simplement, et j'ai vraiment réfléchi à la manière dont je pourrais continuer ce podcast, hein, parce que ça m'aurait vraiment fait chier d'arrêter, parce que c'est quand même quelque chose que je porte en moi depuis assez longtemps. Et donc je suis arrivé à la conclusion que j'allais faire moins d'épisodes, mais où j'allais parler de plus de films. C'est-à-dire que je vais faire des épisodes comme celui-ci qui seront soit mensuels, soit bimensuels, par exemple, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris, deux fois par mois. Par exemple, au mois d'avril, étant donné que j'ai déjà vu deux films en projection presse qui sortent le 17 avril. Il y aura un épisode à la mi-avril pour que je rende compte de ces films-là, hein, parce que bien évidemment, enfin, ça va de soi pour les gens qui connaissent les projections presse, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, il faut qu'on sorte nos critiques à peu près au même moment que la sortie du film, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Effectivement, voilà, il y aura un épisode déjà mi-avril. Mais donc oui, ce sera des épisodes comme ça où je parlerai de 3, 4 films qui m'ont marqué dans les deux premières semaines ou les deux dernières semaines ou un mois entier, etc. Voilà, ce sera ça la nouvelle formule pardon, de Daily Movies. Je pense que c'est à l'heure actuelle ce qui me convient le mieux, voilà, en termes de temps, en termes d'énergie à investir, etc. C'est vraiment ce qui me convient le mieux dedans. Voilà, il y aura toujours des festivals, pour le coup ça ne bouge pas. Toujours des festivals d'ailleurs, il y aura une petite surprise, je vous tease pour la fin du podcast, mais voilà, j'ai une grosse annonce là-dessus, je vous le dirai à la fin. Voilà, et donc on va pouvoir tout simplement commencer avec cette nouvelle formule. Donc du coup, vous l'avez vu, c'est les films du mois de mars. J'ai retenu trois films. Voilà, je ne parlerai pas de The Sweet East et de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, tout simplement parce que j'ai déjà fait une critique justement en festival. Donc The Sweet East c'était à l'étrange et Vampire humaniste c'était au pif. Donc je vous mets les liens de mes critiques dans la description. Allez les écouter parce que pour moi c'est quand même les deux meilleurs films qui sont sortis ce mois-ci. Voilà, même si j'ai en tout cas aimé certains et beaucoup aimé certains dont je vais vous parler, je pense que ça reste quand même mes films préférés qui sont sortis ce mois-ci. Voilà, et donc on va prendre les films tout simplement dans l'ordre chronologique, et on va commencer par la salle d'épreuve de Ilkay Çatak.
Je peux comprendre que ça soit un peu trop pour eux. Peut-être sont-ils aussi overfordés.
Hey! Bespitzelung, Denunciation, Verleumdung, Rufwahn.
Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Nowak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Alors, c'est un des films que j'attendais le plus sur ce mois. Moi, je suis pas du tout quelqu'un, comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, qui regarde les bandes annonces. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère aller voir un film en étant totalement vierge et en vraiment découvrant le film comme ça, en me le prenant tel quel. Là, pour le coup, c'était pas le cas. J'avoue que bon, j'avais quand même, même si effectivement j'avais moins de temps, j'avais quand même trouvé le temps d'aller au cinéma. Et donc, ce film-là en particulier, la bande annonce passait pas mal. Donc, du coup, j'ai vu la bande annonce et je me suis dit, ok, ça a vraiment l'air pas mal, il y a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très 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 cool. Enfin, le film, voilà, m'attirait. Il y avait ce thriller, il y avait aussi, dès la bande-annonce forcément on le voit, mais ce 4 tiers, hein, moi je trouve ça génial. J'aime beaucoup le 4 tiers, enfin quand il est bien utilisé, hein, pour le coup, et là je trouve que c'est le cas. Voilà, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, et c'est pas, disons que je vais pas aimer un film parce qu'il est en 4 tiers, mais en tout cas voilà, si c'est bien bien maîtrisé, bien utilisé, tout de suite, forcément, il va y avoir une petite plus-value, un truc qui fait que je vais être plus dans le film. Voilà, puisque pour moi, le 4 tiers, vraiment, on en reparlera. Mais cet effet-là de, bah ouais, justement, enfermer les personnages, et des fois, ça peut être très, 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 très bien, comme dans le cas, voilà, d'un film aussi tendu, dans un film où, bon, bah voilà, on a des personnages qui sont quand même livrés à eux-mêmes face à une situation qui les dépasse un petit peu. Donc, pour le coup, voilà, c'était un 4 tiers qui est très juste et très bien utilisé. Puis même au-delà de ça, hein, l'intrigue, pour le coup, voilà, je la trouvais très, très, très intéressante, et j'avais vraiment, vraiment envie de voir ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour le coup, j'ai pas du tout été déçu par ce film. J'en ai pensé le plus grand bien. Effectivement, on sent qu'il y a ce climat de tension. En fait, ce qui est assez passionnant, c'est que je l'ai vu avec un regard où je ne connais absolument pas la situation de l'éducation nationale en Allemagne. Voilà, je connais pour le coup la situation en France. Hein, voilà, on sait ce qu'elle est. Mais en Allemagne, non. J'ai pas du tout de lien avec ce pays, dans le sens où, j'ai pas forcément étudié la langue, enfin, je m'y intéresse pas spécialement. Donc en fait, c'était intéressant de découvrir ça avec le regard d'une autre culture finalement que la culture allemande. Et il y a des trucs qui, nous peuvent nous paraître bizarres. C'est vrai que c'est un collège. Pendant longtemps, je me suis posé la question, parce qu'en fait, elle leur fait les maths et le sport. Sauf que, normalement, ça n'existe pas. Enfin, en France, en tout cas, il y a personne, aucun prof qui va notamment faire les maths et le sport. Bref, donc ça, c'est un aspect un peu plus sociologique, entre guillemets, même plus culturel. Histoire de dire qu'effectivement je n'ai pas vu avec ces codes là. Alors maintenant, d'après ce que j'ai compris, et de ça pour le coup je le sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes d'origine turque en Allemagne, et donc le réalisateur en fait partie. Et donc justement sur ça, il y a un truc très très intéressant qui se passe au début, c'est-à-dire que on se met à soupçonner des élèves en fait pour les vols, ce qui en soi est possible hein, pour le coup, ça aurait pu être une intrigue aussi très intéressante hein, que ce soit les élèves qui aient volé. Du coup forcément, entre guillemets, parce que ça représente un peu la société, etc. Le choix des policiers s'arrête sur un élève qui est d'origine maghrébine. Pour le coup, je vous dis ça, c'est pas du tout du spoil, c'est vraiment au début. Mais donc au début, je me suis dit, ok, on va vraiment partir dans un truc comme ça où ce truc-là va faire un espèce de scandale. C'est dans la bande-annonce en plus, il y a ce truc-là qui va faire un scandale et tout va partir de là. Et voilà, et j'ai l'impression que la bande-annonce, moi, dans mes souvenirs, elle m'avait vendu ça. Sauf qu'en fait, non. Comme vous l'avez dit, c'est la prof hein, qui du coup se dit à un moment, tiens, et si je laissais en évidence mon portefeuille et que je laissais la caméra de mon ordi allumée pour filmer. Voilà. Et à partir de là, il y a tout un truc qui se déclenche. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a des accusations, ça entraîne un effet boule de neige qui est absolument, absolument énorme. Pour le coup, va aussi bien mettre à mal la personne qui est accusée que la prof, que... certains élèves qui sont absolument ces moments sont hyper oppressants, et je pense que c'est ça qui moi m'a le plus marqué dans ce film, c'est que c'est un film qui est absolument oppressant pour le coup. Je crois que dans Critique Letterboxd que j'ai mis, c'est vraiment pourquoi à chaque fois que j'ai le temps pour aller au cinéma, je choisis des films qui me mettent super mal et qui exacerbent mes angoisses au lieu de me les apaiser. Ce film là c'est exactement ça, c'est un film qui franchement arrive à mettre dans une tension absolument perpétuelle. Franchement, j'étais en angoisse vraiment devant. C'était extrêmement éprouvant à regarder. Et en fait, ce qui est absolument passionnant avec ce film, c'est justement cette reproduction de société miniature, hein, parce que c'est ce que c'est, hein, ce collège, c'est une société miniature qui est reproduite, et à partir de là, on va nous parler vraiment de choses. Il y a un climat qui est déjà tendu de base, comme dans notre société, même si encore une fois, il y a des différences de culture franco-allemande, mais dans un climat quand même occidental, européen. Oui, donc oui, il y a effectivement un climat tendu. C'est vrai que il y a pas mal d'accusations. C'est vrai. Il y a des moments où il y a des déferlements médiatiques. Quels effets entraînent les accusations? Il y a ça. Voilà, donc il y a vraiment tout ce truc de reproduire cette société-là et vraiment de le tenir en huis clos, de le tenir dans ce collège et en fait de ce qui est un truc hyper intéressant. Hein, je sais pas si le réalisateur était jusque-là dans sa pensée, mais qui est de se dire c'est quand même un lieu d'apprentissage, une école. Voilà. Et donc en fait, même dans ce lieu d'apprentissage, tout ce qui ne va pas entre guillemets dans cette société est reproduit. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça va pas, c'est parce que il y a pas le temps de déconstruire et donc on reproduit, on refait, etc. Et donc plus ça avance, moins ça évolue entre guillemets. Enfin, Heureusement qu'on est dans une période où la déconstruction est bien présente, hein, même si, bien évidemment, y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais voilà, j'ai trouvé ce que... Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est le propos, mais si ça l'était, j'ai trouvé ça très intelligent. Et en fait, le truc un petit peu... pas bête, mais un peu évident, mais en fait, qui ne l'est pas, c'est qu'en fait, dans ce film, il y a une vraie place qui est laissée aux enfants, et en particulier à Oscar, voilà, qui est donc le fils de la personne qui est accusée de ces vols, qui pour le coup en fait le point central du film pour moi et le truc le plus intéressant c'est clairement la relation qu'il a avec Miss Novak, donc du coup qui accuse sa mère de vol. En fait avant les accusations c'est un peu son meilleur élève, enfin il est très très bon élève et il l'apprécie énormément, voilà, et pour le coup les deux se retrouvent un peu voilà dans cette relation de prof à élève où lui c'est une professeure qui l'apprécie énormément et qui l'aide vraiment à avancer, et elle se dit ok c'est un enfant qui est quand même très 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 bon et qui a du potentiel et voilà je vais l'aider à avancer justement, et donc il y a ce truc là où on sent que bon voilà les deux sont quand même assez proches, mais assez proches, rien de déplacé hein, vraiment assez proches dans ce rapport là de prof à élève. Et donc du coup, le fait qu'elle accuse sa mère, logiquement, ça va amener quelque chose de totalement différent, où il va tout de suite être, au début il va pas comprendre, et puis en fait quand sa mère va lui expliquer, il va être dans l'opposition par rapport à cette prof, mais ce qui est logique, et ça va aller assez loin en fait, voilà cette histoire-là. Et pour le coup, c'est hyper intéressant d'être vraiment sur l'enfant et la psychologie de l'enfant, parce que le réalisateur a choisi de faire son film dans un collège, c'est pas un choix anodin, il aurait pu choisir n'importe où pour refaire une société. Voilà, hein, pour le coup, moi je suis en train d'écrire un film, ma micro-société, je la reproduis au sein d'une soirée. Il y a vraiment plein d'environnements qui font que d'endroits qui font qu'on peut reproduire des sociétés. Mais choisir le collège, c'est pas neutre, ça veut dire des choses. Et dans le collège, la particularité, c'est que il y a des élèves qui sont des enfants. Et il y a des films qui oublient ça, notamment le film qui est sorti ce mois-ci en plus. Hein, donc c'est pas hors sujet si je vous en parle, mais le film Pas de vague avec François Civil, qui est juste vraiment cliché et pas bien dans ses représentations. On n'est pas dans la même nature d'accusations. Néanmoins, on reste sur un film où il y a des accusations qui créent vraiment un climat de tension extrêmement fort, avec un professeur dans tous les cas au centre du film, et pour le coup c'est le jour et la nuit, je trouve, en termes de traitement. Il y a absolument aucune place qui est donnée aux élèves, c'est des types en fait, si vous voulez, c'est pas très fin, c'est pas très bien écrit, et en fait le film dans son propos est un petit peu dégueulasse quoi, voilà, pour Pas de vague. Je vais pas faire une critique parce que c'est pas le but et que j'ai pas apprécié ce film, j'aurais pu hein, pour le coup, mais je trouvais ça dans le même thème, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de parler de La salle des profs. Mais oui, pour moi, c'est le jour et la nuit. Et La salle des profs réussit beaucoup en ce point-là. C'est que on va vraiment s'intéresser à l'élève, à Oscar. On va aussi s'intéresser à d'autres élèves. En particulier à Oscar, parce que forcément, il est le premier touché. Et pour le coup, il y a des reproductions de schémas en plus. Hein. Les deux sont nouveaux dans leur établissement, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de reproductions de schémas. C'est des films qui, peuvent être rapprochés. Et pour autant, je trouve La salle des profs beaucoup plus juste déjà dans sa mise en scène. Voilà, déjà, je vous ai dit le choix du 4 tiers. J'en ai pas encore parlé, il me semble. Mais effectivement, on est dans un thriller. Donc, on est dans un truc où les personnages vont être mis sous tension en permanence. Donc, en fait, le 4 tiers va vraiment les enfermer dans cette tension-là, et nous va vraiment nous prendre et nous enfermer aussi. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais voilà. Et puis, enfin bref, le 4 tiers, ça donne tout de suite un aspect un peu plus déjà dramatique, un peu plus il y a un truc un peu plus solennel que le 16/9e pour le coup. Pas de vague, c'est ça? Oui, c'est Pas de vague, ne le fait pas du tout. Et Pas de vague, en fait, je trouve, n'a pas d'idée de mise en scène, tandis que La salle des profs, on a plutôt et arrive bien à faire ressentir cette tension, justement. Je pense que il y a un beau dans les mois qui ont été là, il y a un beau triple programme sur l'école, l'innocence, La salle des profs et Pas de vague. Le meilleur étant l'innocence, hein, pour le coup de Coréeda. J'ai trouvé que il y avait une histoire qui se tenait vraiment, qui était intelligente, qui en fait c'est ça qui est aussi intéressant dans les scénarios, c'est les histoires qui d'une part se tiennent en tant que telles, hein, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même est intéressante, et en même temps le propos aussi se tient, le propos sous-jacent voilà, se tient, et on voit bien justement ce microcosme de société et où voilà, tout se joue en fait, et donc il y a une lecture à deux échelles qui pour le coup marche très très bien. Voilà, et il y a des moments, moi par exemple, après c'est une expérience personnelle, mais pour le coup j'ai mon BAFA, je suis animateur, et il y a des situations où j'aurais fait putain mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, enfin c'est des trucs qui vraiment, c'est tout con hein, mais selon le rapport de la personne au sujet vont vraiment influencer ou non. Voilà, et donc je me rends compte que je suis quand même pas mal long sur le film. Voilà, donc, mais oui, c'est tout ça pour dire que c'est quand même un film qui est très 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 réussi pour le coup dans cette optique là parce que voilà, qui marche bien dans sa tension, qui marche bien dans son propos, qui a un jeu aussi, j'en parle pas hein, mais qui a un très bon jeu. Y a des points que j'ai pas développé hein, pour le coup, que je pourrais plus développer, mais je finis sur le jeu, qui est un très bon jeu. Je pense notamment à son interprète principal. Il y a des scènes ultra marquantes, hein, cette scène qui, je crois, est dans la bande-annonce, je crois que vers la fin, on la voit, mais vraiment de elle qui arrive en classe et en fait qui vient de se faire allumer par ses collègues en salle des profs et qui fait « Bon, les enfants, on va faire un truc pour se détendre, on va tous crier, allez-y, criez le plus fort possible. » Et en fait, qui utilise ça pour, elle, évacuer. Enfin, c'est des scènes comme ça qui sont super puissantes et voilà, qui, moi, sont venues vraiment vraiment me toucher. Et ouais, il y a des trucs, j'en ai pas parlé, mais par exemple, l'aspect médiatique, je vous ai dit, hein, ce microcosme de société, les tollés médiatiques et tout, ce segment, je le trouve aussi très intelligent et très très fort, parce qu'en fait, on sait très bien qu'elle est en train de se jeter dans la gueule du loup, mais pour autant, il y a quand même ce truc qui fonctionne et où on se dit, putain, comment ils vont réussir à utiliser ce qu'elle a dit contre elle, etc. Enfin, c'est quand même assez fort d'être dans cette terre-là, et donc en fait, c'est un film qui fonctionne bien parce qu'on arrive à s'y retrouver dans les sujets qu'il aborde. Moi, mon seul problème avec, ça a été la fin, parce que je trouve que en fait, il va dans une piste qui est très très bien. Il explore une piste qui est, on se dit, ok, c'est très intéressant et c'est très intelligent d'avoir fait ça. Néanmoins, cette piste-là est conclue d'une manière tellement étrange, je n'ai pas compris pourquoi la fin était aussi rushée. Enfin, franchement, il y avait un truc super intéressant justement qui était, on allait dans le climax de cette intrigue avec la psychologie de l'enfant, etc. Et pour le coup, il y a juste une fin qui, selon moi, n'a aucun sens. Et c'est dommage parce que vraiment ça gâche pas ce que le film a mis en place avant, mais en fait ça ça va pas aussi loin et aussi juste que ça aurait pu être, et c'est franchement dommage parce que pour le coup avant on a un film qui se tient, qui est très intéressant et que moi j'ai énormément apprécié pour le coup. Voilà, je vous le recommande très fortement. Allez, on va passer au prochain film. Avant, très rapidement, je fais un petit état des lieux, notamment sur les sorties du 13 mars, voilà, parce que je ne parlais pas de films sortis le 13 mars, mais j'ai vu Heureux Gagnant, qui est une comédie voilà, plutôt sympathique, hein, voilà, qui bon, se regarde, il y a des moments plutôt drôles, il y a des histoires qui marchent mieux que d'autres, mais qui bon, voilà, est sympa, qui aborde des thèmes, pour le coup, qui, oui, ça va arriver à être abordé sur le bon ton. C'était également donc, la sortie, comme j'ai dit, de The Sweet East, hein, voilà, je vous invite fortement à aller le voir et à aller écouter ma critique. Et donc, du coup, le film dont je vais vous parler ensuite est sorti, lui, le 20 mars, et il s'agit d'un film d'animation, il s'agit de La Jeune Fille et les Paysans, de D.K. Walshman et Hugh Walshman. Au 19e siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jagna, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi. Commence alors les saisons de la colère. Alors vous savez quoi, je vais commencer par ça. Je pense pas que ce soit le plus évident quand on parle de ce film. Je pense que le plus évident, ça reste son animation. Mais parlons d'abord de ça, on parlera d'animation ensuite. Comme vous l'avez entendu, c'est un film qui, dans son pitch, affiche déjà un féminisme. Qui littéralement nous dit... c'est une jeune femme qui, pour le coup, va être mariée de force et qui décide de tout envoyer valser. Donc voilà, il y a vraiment, pour moi, si ce film n'est pas féministe, qu'est-ce qu'il l'est, pour le coup? Et ça l'est, hein, en un sens, hein, très clairement. Hein, on voit très bien que, effectivement, elle est dans ce village-là, qui donc, est un village d'une autre époque, pour le coup, qui lui laisse assez peu de place, en vérité, pour exister. pour avoir une volonté propre, hein. Pour le coup, bon, elle n'a pas vraiment trop le choix. Elle se retrouve mariée à un vieux monsieur qui vient de perdre sa femme, qui est absolument ignoble, vraiment le monsieur, hein, pas la femme, j'entends, qui est absolument ignoble, alors que bon, bah, concrètement, elle en aime un autre et qu'elle aimerait être avec lui. Voilà, il y a assez peu de place pour sa volonté propre. Donc c'est vraiment un film qui, en fait, bah, de par son propos, s'inscrit dans une démarche féministe, voilà, qu'il le veuille ou non. Et je pense qu'il le veut, voilà, factuellement. Néanmoins, et je sais que c'est pas quelque chose où on m'a beaucoup appuyé, voilà, j'ai pas vu beaucoup de gens avoir cet avis-là, je trouve que le film manque de female gaze. C'est-à-dire, c'est génial, hein, toutes les scènes avec Yagna, tous les moments où on la suit, tous les moments où on voit ce qu'elle vit, où on est avec elle, c'est super. Mais il y a vraiment un moment où je me suis dit, attends, mais ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et en fait, pour moi, le souci avec ce film, c'est que il va nous emmener un peu trop souvent sur le point de vue des hommes. Moi, pour le coup, je vois ça. Je veux du female gaze là-dessus. C'est-à-dire que je veux qu'on soit sur le point de vue de Yagna, parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant. Si je prends l'exemple d'Iris Bray, donc, qui a publié un essai « Le regard féminin, une révolution à l'écran », elle dit qu'il y a 6 caractéristiques, 6 questions à se poser. Est-ce que le personnage principal s'identifie en tant que femme ? Bon, là, c'est le cas, pour le coup. Je vais faire exprès de ne pas les donner dans l'ordre. Est-ce que l'histoire remet en cause l'ordre patriarcal ? Bah, comme on l'a dit, très clairement que oui. Est-ce que la mise en scène permet au spectateur ou à la spectatrice de ressentir l'expérience féminine ? C'est vraiment le cas. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui, bon, voilà, est plus compliqué. Bon, et d'abord, est-ce que le plaisir des spectateurs est produit par autre chose qu'une pulsion scopique ? Pour le coup, oui, notamment par l'animation, par la beauté des images. Voilà, c'est ça qui provoque principalement le plaisir des spectateurs. Hein. Pour le coup, c'est très compliqué de vraiment prendre du plaisir par rapport à l'histoire parce qu'elle n'est pas super joyeuse. Voilà, et ensuite, pour moi, on a deux questions qui restent un peu en suspens. Alors, on a, et si les corps sont érotisés, est-ce que le geste est conscientisé ? Il y a des scènes qui me font dire que non, il y a des scènes qui me font dire que oui, pour le coup, parce que bon, là, même si c'est de l'animation, ça reste érotisé. Et enfin, et ça c'est dommage, est-ce que l'histoire est racontée d'un point de vue du personnage principal féminin ? Elle l'est, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle l'est, il y a des moments où, pour le coup, on switch totalement sur les hommes, sur le point de vue des hommes, et en fait, tout de suite, le film devient moins intéressant. Parce que, en fait, dans l'essence même de son pitch, le film, justement, parle de ça. Le film remet en question l'ordre patriarcal, littéralement. Et donc, du coup, ça appelle à ce point de vue-là. C'est ce que le film demande ça, le pitch demande ça. Et pour le coup, ça se fait pas vraiment. Pour le coup, il y a un truc où il y a des fois où on change de point de vue sans trop savoir pourquoi, et c'est inutile et inintéressant. Et voilà, je trouve ça dommage. Moi, c'est une de mes grandes limites avec le film. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié le film. Alors pareil, hein, c'est pas un film qui est très très joyeux, hein, pour le coup. Pareil, je suis sorti de la salle, j'étais pas en max de ma forme. Hein. C'est pas super gay. Voilà, mais ça m'avait beaucoup interrogé, ce film. Pour la simple et bonne raison que bon, bah, le film d'avant de la réalisatrice et du réalisateur, La Passion de Van Gogh, avait fait plutôt pas mal de bruit. Moi, je ne l'ai pas vu, voilà, donc je ne sais pas du tout si c'est le même style d'animation. Toujours est-il que sur ce film-là, ils ont quelque chose d'hyper particulier, c'est-à-dire que en fait, c'est des images de prise de vue réelle qui sont ensuite passées en animation. Et donc sur cette animation, à l'image de leur précédent film, on a quelque chose qui est très sûr de l'inspiration peinture, tout simplement. Et en fait, l'animation est absolument magnifique. Voilà, vraiment, c'est des images qui sont absolument sublimes. Et en fait, on sent que... Alors, c'est adapté d'un livre, hein, mais on sent très bien que bah, les descriptions de ces paysages... Voilà, ça se passe en Pologne. On sent que ces descriptions, en fait, ont vraiment marqué le réalisateur et la réalisatrice. Et que, pour le coup, ouais, c'était vivant dans leur tête et qu'ils ont réussi à nous le rendre vivant à l'écran. Et c'est une animation qui est magnifique. Moi, ce qui m'a un petit peu perturbé, effectivement, c'est au niveau des personnages. Parce que, en fait, c'est très perturbant. C'est vrai qu'on a l'habitude de soit d'avoir des films en prise de vue réelle, soit des films en animation, soit des films qui mélange les deux, mais c'est-à-dire que ça va être mélange des deux, type Space Jam par exemple, c'est-à-dire que on va avoir des images en prise de vue réelle et on va y incruster de l'animation. Voilà, c'est dans ce sens-là. On a aussi ça avec notamment les images de synthèse, parce que mine de rien, ça reste une forme d'animation. Bien sûr, on touche plus aux effets visuels qu'à l'animation, mais je prenais l'exemple de Space Jam, il y a Space Jam 2, et pour le coup, il y a toujours un peu ce mélange entre l'animation, entre la prise de vue réelle, même si on est beaucoup plus dans les effets visuels. De toute façon, c'est pas un bon film, mais bref, c'est un autre débat. Et donc sur ce film là c'est vrai que c'est hyper perturbant parce que il y a vraiment un mélange direct des deux, c'est à dire que le film fait coexister les deux ensemble en même temps. En fait, ça crée un nouveau truc, quoi, un truc au croisement. Et je crois qu'un des films jusque-là qui avait le plus fait ça que j'ai vu, c'était Perfect Blue. En fait, Perfect Blue ne faisait pas ça. C'est juste que, effectivement, le film était réalisé en fait dans la manière de penser les plans comme un film en plus des vues réelles, mais il n'y a pas eu de prise de vue réelle. Pour le coup, c'était que de l'animation. Là, c'est pensé comme un film en prise de vue réelle par moment, sur des plans, et pensé, pour moi, sur certains plans quand même, comme un film d'animation. Sauf qu'en fait, il y a eu les prises de vue réelles dans tous les cas. Donc, ça crée un mélange qui est parfois hyper perturbant, qui est parfois hyper bénéfique. Pour le coup, mais après, il y a des scènes, moi, qui m'ont laissé, mais absolument sans voix, qui sont plus absolument splendides, tant dans leur réalisation que leur interprétation, leur couleur. Enfin, moi, j'ai cette scène-là en tête de danse quand elle est dans un bar, qu'elle a cette robe rouge, mais cette scène est magnifique. Et tant la musique que la danse, que l'animation, enfin tout, il y a un truc qui s'aligne, et c'est juste, c'est un bonheur en fait à voir. Mais ouais, donc effectivement, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment impressionné visuellement. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très très beau, mais comme je l'ai dit, je trouve qu'il aura manqué quelque chose au film, parce que je trouve pour le coup que la dépiction des hommes est très juste, hein. Pour le coup, c'est pas du tout des gens qu'on a vraiment envie de côtoyer. Pour le coup, les hommes dans ce film, les hommes sont absolument affreux, pour la plupart, pour le coup, ils le sont pas tous, mais quand même, pour la plupart, ouais, c'est pas des gens bien, hein. En tout cas, les deux personnes avec qui il y a une histoire d'amour, côté Yagna, pour le coup, c'est ce vieux monsieur-là, et c'est la personne, le mec dont elle est amoureuse, sauf que, en fait, même lui, au final, se révèle pas forcément être quelqu'un de bien. Donc pour le coup, ouais, non, je trouve qu'en termes de dépiction des hommes, il y avait quelque chose de très... très très bien et très juste, c'était très très agréable pour le coup, et c'est pour ça que je suis assez frustré que le film n'ait pas assumé et tenu son female gaze pendant tout le film. C'est dommage, pour le coup, ça aurait pu être le cas. Pour le coup, non, c'est aussi un très bon film que j'ai apprécié, où il faut également être accroché, parce que c'est quand même un film qui est pas évidemment facile, qui est pas joyeux à regarder, qui est très compliqué. Mais malgré ce petit sentiment de putain, il aurait pu aller plus loin, c'est quand même un film que j'ai apprécié, que je vous encourage à aller voir, parce que tout simplement, il est très bon. Et puis en fait, juste, je vous dirais, allez le voir au moins pour l'animation. En fait, c'est tellement on voit pas ça vraiment tous les 4 matins, c'est quelque chose qui est plutôt rare en fait, cette animation là et encore, je sais pas, si je suppose qu'il y a eu des techniques qui ont dû s'en approcher. Oui, il y a eu Quantum Cowboys que j'avais vu en 2022 au CEF, qui à un moment avait cette technique là d'animation, mais en fait je pense que c'est le deuxième film que je vois avec cette technique là donc elle est plutôt rare, et pour le coup elle est vraiment bien faite. Et donc il y a ce mélange, en plus après ça touche à la peinture, en fait il y a littéralement des tableaux, c'est absolument splendide. Donc rien que pour ça, allez le voir si vous vous sentez, hein, parce que c'est vrai que c'est pas un film qui va vous mettre dans une très bonne humeur, mais pour le coup il reste quand même très bon. Allez, on va passer au dernier mercredi du mois de mars, et pour le coup on est sur un film, je pense, qui était très attendu. C'est pas seulement par moi, je pense que c'est par beaucoup de personnes. On va passer à Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell.
Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Comment on règle ça? Vite et sans douleur? Ou lentement avec douleur?
Lentement avec douleur!
Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à enfin se reposer. Plus précisément pour être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Sauf qu'entre-temps, je complète le SimCity hein, parce qu'il n'est pas complet, sauf qu'entre-temps, il y a une nouvelle méchante qui s'appelle la Caméléon qui fait son apparition, qui peut donc littéralement prendre l'apparence de tout le monde, hein, vu que c'est d'une Caméléon, et qui en fait donc se met en tête d'aller voler les pouvoirs de tous les méchants qu'il y a eu dans l'univers de Kung Fu Panda. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, déjà, il faut commencer par dire que je me suis refait tous les Kung Fu Panda, parce que d'ailleurs, je me suis rendu compte, ou en tout cas, que soit je n'avais pas souvenir du 3, soit je ne l'avais pas vu. Je pense que je ne l'avais pas vu. Voilà, pour le coup, et je me suis refait les trois premiers avant d'aller voir le quatrième en projection presse. Parce que voilà, je l'ai vu en projection presse, je préfère le préciser. Parce que pour le coup, voilà, sur l'histoire de la projection presse, après je reviendrai sur le fait que j'ai revu les films. C'est vrai que pendant un moment, j'ai eu de la chance et tous les films que je vois en projection presse, je les aimais en fait. Voilà, et donc c'est vrai que j'ai eu des remarques en mode « Oui, mais peut-être que tu aimes les films justement parce que tu les vois en projection presse ». Pour le coup, vous allez voir que ça n'a pas forcément joué. Bref, donc j'avais revu les trois films que j'ai beaucoup aimé. Hein, voilà, le 2 est absolument exceptionnel. Le 2 est le meilleur. Shen est un des meilleurs antagonistes qui a été créé. Franchement, il y a eu des scènes où j'étais en larmes, où vraiment déjà du haut de mes 20 ans, j'étais encore traumatisé par ces scènes de génocide. Voilà, pour le coup, ouais, vraiment, je trouve que le 2 c'est le plus profond, c'est celui qui tape le plus fort, le plus vrai. Voilà, et donc j'adore Kung Fu Panda 2, même si j'adore aussi le 1 et j'aime beaucoup le 3. Voilà, c'est-à-dire que même le 3 qui est un petit peu en dessous dans son antagoniste et dans son scénario, même si bon, on a bien compris que bon, bah, globalement, Po il avait des papagais, et ça c'est super, hein, voilà, c'est top. Mais bon, effectivement, c'est vrai que c'est pas l'histoire la plus subtile de la saga, mais en fait, même là-dedans, DreamWorks arrive à vraiment se réinventer en termes d'animation, proposer des choses superbes. Je pense ce combat final avec ses couleurs dorées, mais qui est magnifique, mais qui est d'un splendide, mais exceptionnel. Et donc du coup, moi, je vois ça, enfin, je revois ça du coup, et je me dis, mais en fait, il faut avoir confiance pour le 4, parce que pour l'instant, ils ne se sont pas plantés. Voilà, pour le coup, j'ai très envie d'aller le voir, et je suis très curieux, c'est une saga que j'aime beaucoup, allons-y. En plus, voilà, il y a vraiment à peu près toute la patte de la saga déjà qui a l'air d'être là. C'est-à-dire que voilà, il y a l'air d'avoir des combats, du kung-fu, un film qui fait à peu près 1h30, hein, c'est le cas de tous les films de la saga. Donc on est vraiment dans le truc de se dire, ok, ça va être un peu comme les autres, ça va être cool. Il y a l'air d'avoir franchement un antagoniste franchement pas mal, voilà. Malheureusement, pour le coup, et donc voilà, on peut voir que visiblement la projection presse ne joue pas toujours, c'est un film que j'ai pas vraiment voir assez peu apprécié. Je vais pas vous dire qu'il y a absolument rien de positif dans ce film. Néanmoins, il y a quand même beaucoup plus de négatifs et pour moi, on est vraiment sur le film que j'appellerais le film de trop, la suite de trop. Voilà. C'est-à-dire que c'est dommage. C'est dommage, en fait. J'ai beaucoup de choses à dire sur le film. J'ai passé, si vous suivez sur Instagram, vous savez que j'ai passé mon rewatch des trois premiers films à dire putain, c'est incroyable à quel point DreamWorks est fort dans son animation. Je la redécouvre à chaque fois, cette animation DreamWorks. Et dans mes souvenirs, c'était absolument pas aussi magistral, absolument aussi, aussi beau. J'ai pas arrêté en fait tout au long de ça d'encenser cette animation de DreamWorks, vraiment, parce que elle le mérite, hein, elle est splendide. Je pense, notamment tout juste il y a un an et demi, DreamWorks nous a fait le chapeauté 2. Qui en termes d'animation était exceptionnel, qui était visuellement incroyable. Ça, DreamWorks nous l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, j'en attendais au moins ça. Au moins, parce que dans tous les Kung Fu Panda, il y a su, comme j'ai dit, avoir de belles animations. Et en fait, même pas. C'est la première fois que je vois DreamWorks aussi peu inspiré, je pense, en termes d'animation. En tout cas, dans les films que j'ai en tête d'eux. C'était hyper insipide. Vraiment, il y avait vraiment rien de fou en termes d'animation. Enfin, il y a des moments où je vois qu'il y a des petits trucs qui sont tentés, hein, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a pas autant cette créativité, cette folie qu'on retrouvait dans les précédents opus. Hein, où ça se permettait des choses. Là, pour le coup, c'est très plat en fait. Il y a vraiment rien. Ça sort pas vraiment du cadre. Il y a ce truc là de ce truc un peu classique qu'on connaît. C'est vite chiant en fait, pour être honnête. On s'ennuie assez rapidement cette animation parce que elle a pas vraiment quelque chose à proposer pour le coup. C'est dommage. Bon, j'abuse, il y a quand même un truc pas mal, c'est ce truc où quand la caméléon se transforme, bon, bah, elle prend forcément la forme de la personne, enfin de la personne, de l'animal, mais elle a des écailles en plus. Bon, ok, ça c'est ça, voilà, ça passe bien, c'est stylé, voilà, ça satisfait pas mal de gens, etc., dans l'animation, notamment bah, ce pot en écailles qui pour le coup est très stylé. Mais sinon, à part ça, pour le coup, il n'y a rien. Et ce côté insipide de l'animation, malheureusement, je le retrouve dans le scénario. C'est-à-dire que le 3 était un peu limite, mais le 3 racontait vraiment quelque chose. Le 3, pour le coup, était, voilà, était intéressant et arrivait à avoir un truc hyper fort en termes de famille, en termes de, bah, d'identité, de peau aussi, hein, pour le coup, qui est un peu aussi un fil conducteur de ce Kung Fu Panda. Voilà, ce questionnement sur son identité qui, pour le coup, dans ce 4, est inintéressante. C'est pas du tout une intrigue qu'on a envie de suivre, c'est pas du tout une intrigue qui va galvaniser le spectateur. C'est une intrigue qui, pour le coup, ouais, laisse un petit peu à désirer, qui est pas incroyable, et qui, franchement, pour le coup, ouais, est franchement pas intéressante. Et c'est vraiment dommage, parce que, encore une fois, le Kung Fu Panda, tant dans l'animation que dans le scénario, ça a pas l'habitude d'être aussi insipide. Voilà. Et en fait, pour moi, ce film est aussi, au-delà d'être la suite de trop, est peut-être un aveu d'échec, puisqu'on fait vraiment la spéciale de « on va faire revenir d'anciens méchants ». Ok, et en fait, à la fin, je me suis dit, attendez, mais c'est Kung Fu Panda No Way Home ? Parce qu'il y a vraiment ce truc où on va faire revenir absolument tous les méchants de la saga. Alors, il y a les méchants qui n'ont absolument pas été exploités dans le film, hein, et il y a les méchants qu'on connaît. Et parmi ces méchants, il y en a un qui a une place particulièrement centrale, c'est Tai Lung. Et Tai Lung, pour le coup, bon, bah, a une animation, etc. Et encore, je trouve que Tai Lung perd déjà de son aura par rapport au premier film, où pour le coup, je trouve pareil que c'est un des antagonistes les plus réussis, clairement, de l'histoire du cinéma d'animation. Là, il perd vraiment beaucoup de son aura. Sauf que lui, pour le coup, voilà, a quand même une aura, est quand même bien, voilà, en termes d'animation, etc., est quand même pas mal. Contrairement aux deux autres méchants, notamment bah, le Seigneur Shen, dont je vous parlais. Et le Seigneur Shen, comme je vous ai dit, c'est pour moi l'antagoniste peut-être le plus marquant, hein, j'hésite avec le loup du Chapeauté 2, justement. Pour le coup, voilà, je ne sais pas lequel je trouve plus terrifiant, mais c'est un des plus marquants, des plus terrifiants. Et pour le coup, là, il y a vraiment une animation qui n'est absolument pas finie sur le Seigneur Shen. On lui donne pas la parole, on le fait revenir juste comme ça. Et en fait, ça gâche, mais ça... Tout le mythe et l'aura et la partie impressionnante que DreamWorks avait développée autour des antagonistes de Kung Fu Panda, elle s'est évanouie avec ce film. Ils ont vraiment gâché tout le travail qu'ils avaient mis en place sur les films d'avant. Et ça, c'est pour le coup un vrai drame. Et ça, pour le coup, oui, je pense qu'on peut le considérer comme un échec. Parce qu'il y a ce truc-là de voilà, ces antagonistes qui, pour le coup, moi, voilà, certains m'ont fait peur, ou en tout cas m'ont impressionné. Je me suis dit, ok, il y a vraiment un antagoniste qui a du charisme, on y croit, etc. Pour le coup, bah, là, ça vient les ridiculiser. Et en fait, ça en devient ridicule. Et voilà, c'est vraiment ça, moi, mon problème avec ce film aussi, c'est qu'il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée, et quand on n'a pas d'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers le passé et la nostalgie. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'idée. Il y a une idée, bien sûr, je vais vous en parler, voilà, mais il n'y a pas vraiment d'idée plus que ça. Et ça a fait comme dans Star Wars, on n'a pas d'idée, on va reprendre un méchant, enfin des méchants du passé, on va les faire revenir, et puis voilà. Ouais, enfin, sauf que ça marche pas aussi bien, et la caméléon c'était top, hein, y a pas de souci, mais pour moi elle aurait pas dû avoir besoin de voler les pouvoirs, enfin le concept se suffisait à lui-même, et vraiment voilà. Et pour le coup, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un truc de taille. La caméléon, quand elle est dans sa forme de caméléon, elle est toute petite, et des fois elle va prendre des formes mais immenses, etc. Et ça, c'était une trop bonne idée, voilà, il y a des super idées, des super concepts, voilà, qui se baladent à droite à gauche. Bon, bah le personnage, je crois que c'est Zen, le lapin, voilà, c'est bien Zen, donc cette idée de, bon bah, on va prendre, enfin, Po va prendre une apprentie, etc. Parce que, bon bah voilà, bon, on se doute que c'est quand même Zen qui va finir guerrier dragon, enfin ça, on le sent, et bon, en soi, voilà, ça peut être un petit peu prévisible, c'est pas dérangeant si autour il y a une bonne histoire, si autour voilà on s'amuse, si autour il y a quelque chose de bien, ce qui pour le coup est pas vraiment le cas. Alors, d'après les infos que j'ai eues, ce serait quand même le film qui a le moins de budget de toute la saga. Bon, ça peut expliquer des choses, pas tout, ça peut pas tout expliquer. Voilà, il y a des faiblesses dans l'animation, ok, peut-être qu'il y a moins de budget. Alors certes, hein, oui, il y a moins de budget, mais t'étais pas obligé de faire revenir des antagonistes. Voilà, ça tu n'étais pas obligé. Ça se compte scénaristiquement. Voilà, il y a quand même moins de budget, il y a quand même 80 millions de dollars, donc il y a des choses à faire. Il y a des petites choses à créer, voilà, dans l'animation. Ce qui, pour le coup, est beaucoup moins le cas. Voilà, donc il y a le bâton de Maître Oogway qui lui est donné dans le 3. On attend que ça qu'ils s'en servent. Et pour le coup, il y a le combat final qui dure mais je ne sais combien de temps. Et au final, il finit juste par utiliser le bâton et il lui botte le cul en 2 secondes. Mais on se dit, mais en fait, t'aurais dû utiliser le bâton dès le début. Enfin bref, il y a des trucs qui fonctionnent absolument pas. Et pourtant, bon voilà, moi je sauve pour le coup bah, les scènes de combat qui sont pour le coup vraiment top, hein, qui sont vraiment dans l'ADN de la franchise, de la saga, qui sont ouais, très très bien réussies. Et des concepts dans certains personnages. Voilà, mais pour le coup, c'est un film Kung Fu Panda où on peine à retrouver vraiment la vibe Kung Fu Panda qu'on aime, qu'on avait dans les premiers films, voilà, avec cette animation soignée, avec voilà, c'est cette créativité, cette inventivité, ces antagonistes absolument marquants et ces histoires très concrètes. Et encore, je trouve que la Caméléon est, voilà, dans le concept est plutôt réussi, c'est plus dans l'application qui fait qu'elle a moins d'aura que ses prédécesseurs, mais voilà, c'est plutôt réussi. Mais bon, c'est vrai que hormis ça, on est sur un des films de DreamWorks les plus insipides que j'ai vus, les plus fades, les moins inspirés. Et franchement, c'est dommage. Pour le coup, voilà, je ne sais pas si c'est le budget ou si c'est quoi. Mais au bout d'un moment, il faut que les grands studios comme ça, comme DreamWorks, qui donc pour le coup bah, ont littéralement fait des chefs-d'œuvre d'animation, des trucs splendides, il faut qu'ils arrivent à se dire « Ok, bah peut-être que là on n'a pas le budget qu'on veut pour faire un truc bien, bah peut-être qu'on le fait pas, peut-être qu'on attend d'avoir un peu plus d'argent, peut-être, je sais pas. Faudrait qu'il y ait cette conscience là de se dire ok, c'est pas parce que c'est une saga et que ça a bien marché qu'on y va et qu'on le fait. Enfin après je dis ça, le chapeauté, le budget c'est 90 millions de dollars, c'est 10 millions de plus. Je veux dire, c'est pas, voilà, à cette échelle-là, c'est pas énorme, et pourtant, le chapeauté 2, c'est une inventivité, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de budget, et voilà, là, à mon avis, il y a vraiment la volonté de faire un Kung Fu Panda pour faire un Kung Fu Panda, de surfer sur ce qui marche, c'est-à-dire, ce truc de, ouais, on va ramener d'anciens méchants, etc., et pour le coup, ça totalement en fait gâcher le film, et c'est fortement dommage parce que bah, comme je l'ai dit encore une fois, désolé de me répéter, hein, mais le chapeauté 2 a montré que DreamWorks pouvait faire des dingueries et vraiment revenir, voilà, réinventer et participer à ce renouveau du cinéma d'animation, et voilà, c'était top. Même les bad guys, hein, il y avait une animation qui était différente, ça faisait du bien, c'est pas mon film préféré DreamWorks, mais voilà, c'était sympa à regarder. Là pour le coup, je comprends pas vraiment, voilà, là où c'est une saga qui moi, toujours trouver de quoi m'impressionner, pour le coup, ouais, je trouve ça plutôt fade et c'est fortement dommage. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas dire que je conseille ce film. Allez, c'est la fin de cet épisode. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Du coup, petit point actualité, voilà, sur ce podcast rapidement. Je pense, voilà, que j'essaierai de faire un épisode qui donc résume mes films préférés qui sont sortis au début de l'année, parce qu'il y en a pas mal, hein, voilà, notamment mon film préféré de l'année qui est sorti en février, que j'ai vu dans mon premier jour de mon anniversaire, donc c'était un très beau cadeau. Et je vous expliquerai pourquoi je suis capable de faire un épisode entier sur ce film, tellement il m'a passionné. Bref, voilà. Il y aura du coup, comme je l'ai dit, un épisode mi-avril, hein, voilà, avec certains films, donc certains dont je ne suis pas encore autorisé à parler. Donc je vais me taire. Et donc, bah, la petite annonce sur le festival, c'est que je ferai un épisode bien sûr particulier pour l'annoncer, mais je vais enfin au Festival de Cannes cette année en tant qu'accrédité presse. Je suis extrêmement content, enfin, je ne réalise pas encore, même un mois après la crède, j'ai du mal à réaliser. Enfin, c'est fou de me dire que ouais, je serai à Cannes avec un badge presse. Enfin, c'est, voilà. En tout cas, merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous qui m'écoutez. Donc vraiment, merci à vous. Et voilà, c'était tout. C'est tout pour, voilà, pour ces annonces. Une accrède à Cannes, 2 épisodes voilà, qui vont arriver. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas à le partager. Voilà, et en parler autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.